RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, Charles Consigny, Flora Gebali, Zora Bitant. Tout à l'heure, c'est le général Vincent Desportes qui sera face aux grandes gueules. On a besoin de son éclairage après ce qui s'est passé ce week-end. Un cargo iranien qui a été stoppé par l'armée américaine, un cargo français qui a été visé par des tirs iraniens, des pourparlers qui ne démarrent pas et un cessez-le-feu qui se termine dans la nuit de mardi à mercredi. On n'est pas sûr que la guerre va peut-être reprendre. Enfin, en tout cas, c'est une guerre sans fin, 52e jour. On a beaucoup de questions à poser au général Vincent Desportes qui sera donc face à nous tout à l'heure à 11h dans les grandes gueules. D'ici là, le président idéal à 47 ans, il est honnête et courageux, plutôt de droite selon le sondage publié hier par la Tribune dimanche. Est-ce qu'il existe? Parce que j'ai regardé, tous ceux qui se présentent sont pas tout à fait dans cette catégorie. Toi, Edouard Philippe n'a pas 47 ans, il est plus vieux.
Non, mais il y a un sondage, faut rester tranquille.
Voilà, Zora commence à remettre en cause des sondages.
Oui.
En tout cas, quel est votre président idéal? On vous pose la question au 32-16 et on en parlera dans une dizaine de minutes. Mais pour commencer, le carburant avec une mauvaise nouvelle, puisqu'après ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz ce matin, les cours du pétrole s'affolent à nouveau. Ce matin, Michel-Édouard Leclerc, qui était invité sur une autre antenne, a déclaré que le prix des carburants ne baissera pas de sitôt. Il craint même que cette crise énergétique se poursuive jusqu'à l'hiver prochain. Et c'est vrai que pour l'instant, ça fait du yo-yo sur les marchés. Il y a un regain de tension entre Washington et Téhéran. Alors les prix du pétrole se sont à nouveau envolés ce matin. Et le gouvernement est toujours dans l'idée d'apporter des aides très ciblées, souvent jugées insuffisantes. La dernière en date, ce sont les 50 millions d'euros qui vont être versés aux professionnels des transports routiers. Cette aide est entrée en vigueur hier. Elle va permettre de toucher entre 70 et 500 euros par véhicule. Alors ça concerne les professionnels, les entreprises de moins de 1000 salariés. Alors il y a beaucoup de mesures et de conditions. Une usine à gaz, disent déjà des routiers qui jugent l'aide de l'État pour le carburant compliqué et illisible. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Sébastien Lecornu n'est pas en train... Alors je vois qu'il baisse dans les sondages d'ailleurs. Sébastien Lecornu n'est pas en train de se tromper. C'est-à-dire qu'on est face à une crise énergétique qui semble s'installer et que pour le moment, il n'apporte que des mesures très ponctuelles et très insuffisantes, en tout cas qui ne répondent pas aux problèmes aux habitants.
Ah bah c'est peu dire une crise qui s'installe, parce que le carburant c'est quand même une grande partie du pouvoir d'achat des gens, et en particulier dans les territoires où eux ils ont pas le métro, le tram, le TER, etc. Donc la voiture est beaucoup utilisée, sans compter pour les gens qui travaillent. Donc la tradition du chèque en France perdure et continue. C'est-à-dire qu'on va faire des chèques encore, on sait pas comment on sait pas où on va trouver l'argent, mais enfin si, puisque de toute façon le carburant rapporte beaucoup.
Mais est-ce qu'il faut étendre les aides?
Non mais ce matin j'écoutais, il va y avoir un leasing sur la voiture électrique, c'est-à-dire que l'État va verser entre 6 500 et 9 000 euros pour que les gens puissent acquérir une voiture électrique, et ensuite ils paieront un loyer entre 100 et 200 euros par mois, conditionné aux revenus. Donc je m'aperçois que depuis le Covid et bien au-delà, c'est chèque à tout va, y compris remboursement pour refaire repriser ses chaussettes la couturière, chez le cordonnier. Enfin, c'est une grande spécialité. Comme il n'y a pas de visibilité, c'est toujours l'histoire du pansement. C'est-à-dire que à chaque fois on voit les fuites, c'est-à-dire qu'on gouverne le pays en se disant mince, là il y a une fuite, courez. En costard, un tableau Excel, un PowerPoint, bim, boum, un pansement. Et puis ça répète de l'autre côté, on remet un pansement. En fait, il y a tellement pas de visibilité. Voilà. Et en fait, les Français se fichent totalement de se dire qu'il va avoir les aides, puisque de toute façon, ils savent que c'est ponctuel, ils savent que c'est piqué quelque part et qu'on leur repiquera ailleurs. Donc la question est absolument pas résolue et le carburant a amputé les loisirs, la nourriture, les sorties, etc. Donc comme dirait l'autre, jusqu'ici, tout va bien. Moi, je trouve que les Français sont tranquilles, ils sont gentils, ils bougent pas. Mais c'est énorme. Le fuel, c'est pareil. Hein. Les gens font des pleins à 1,70€, 1,80€ le litre. C'est absolument incroyable.
Est-ce que le gouvernement a raison d'aller pas à pas, d'être prudent, de faire des aides très ciblées, même si elles sont contestées, plutôt que d'ouvrir les vannes et donner l'argent qu'on n'a pas?
Mais la question, c'est pas qu'est-ce que le Premier ministre fait, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, puisqu'il n'a pas tellement les cartes en main. Quelle mesure pourrait régler le problème qui concerne le détroit d'Hormuz, à part aller assassiner Donald Trump, et encore, je suis pas sûre que ça règle le problème dans son sommeil. Quelle mesure politique à l'échelle française permettrait de faire baisser le prix du carburant, sachant que c'est une économie totalement mondialisée, sur laquelle nous n'avons pas la main? Oui, la baisse des taxes, comme ça on s'appauvrit encore. Baisser une taxe, c'est comme faire un chèque, c'est pareil.
Sauf que ça touche tout le monde, c'est pas, pas aux clients.
Flora, quand on baisse une taxe, on appauvrit les Français.
Oui. Non.
On appauvrit l'État.
Quand on baisse une taxe, on appauvrit l'État. Et donc on appauvrit les Français, puisque on appauvrit la capacité de redistribuer, oui.
Ah oui.
Bah oui.
Donc quand on baisse une taxe, on appauvrit les Français.
Quand on baisse une taxe.
Bah, il faut la financer.
Peut-être, c'est toujours le problème.
Mais pour enrichir
peut-être
les Français,
que pendant
qu'on pourrait augmenter
quelques
les
mois,
taxes.
On aide les automobilistes, mais à long terme, on appauvrit tout le monde.
Avec cette logique.
Mais c'est vrai en France, on ne produit pas de pétrole, et ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz, on est même pas engagé. Donc non, on a du mal. Mais sincèrement, on paye quand même le carburant, quasiment l'un des carburants les plus chers d'Europe.
La question, c'est qu'on est complètement tributaire de l'économie internationale de pétrole, et qu'on doit sortir de là. Et qu'on doit penser à.
Mais c'est vrai que les Espagnols, les Italiens,
et on ne doit penser qu'à ça. Voilà, on ne doit penser qu'à ça.
Oui. Non, mais augmentons les taxes.
Ben oui, bien sûr.
Parce que on enrichit les Français quand on augmente les taxes, selon la logique de Flora. Bah, tu dis que si on baisse une taxe, on appauvrit les Français.
Non, j'ai dit qu'une taxe, c'est l'équivalent d'un chèque. Oui. Si aujourd'hui on enlève une taxe, les automobilistes, ils s'en portent mieux pendant quelques mois, mais à moyen terme, on s'en porte tous plus mal.
Ah bon?
Bah oui, puisque
ça
change rien. Puisque c'est une taxe qui permet de financer la transition écologique.
Ça change rien, partout. Donc. Moi, ce que
à
je
moins
pense.
Que tu penses que la transition écologique n'est pas nécessaire.
Ah, je pense que là, les 15 centimes par litre qui servent à financer des éoliennes, effectivement, ne sont pas nécessaires. Donc, je pense qu'on pourrait déjà supprimer cette taxe-là. Ce serait un bon début.
Alors, le fameux certificat environnement, c'est d'ailleurs ce que Michel-Édouard Leclerc proposait également ce matin.
Exactement.
Parce que on pourrait aussi le patron d'Intermarché qu'on a reçu, M. Cotillard, parce qu'ils estiment qu'effectivement, c'est pas dans le budget de l'État. Donc ça ne coûte rien à l'État et on pourrait suspendre pendant quelques mois.
Exactement, je pense qu'on doit s'adapter à cette donne géopolitique très quand même compliquée en ce moment. Il y a quand même donc des bombardements intensifs sur l'Iran. C'est pas une guerre parmi d'autres. Et pour soulager un peu le porte-monnaie des Français, on pourrait tout à fait suspendre cette taxe, qui est en plus une espèce d'usine à gaz invraisemblable, qui à la fin des fins finance notamment des éoliennes. Donc moi, je pense qu'on peut tout à fait en faire l'économie. Et par ailleurs, je maintiens que si on fait des économies ailleurs dans les dépenses de l'État, on pourra là aussi baisser les taxes sur le carburant, pas seulement cette contribution écologique. Il y a 60% de taxes sur le carburant. Ne faisons pas semblant que nous n'avons pas de levier, on en a.
Oui, mais ce que dit Sébastien Lecornu, c'est que lui, il fait pari de l'électrification de la France, parce qu'il faut des mesures à long terme pour qu'on soit moins dépendant des crises énergétiques, des guerres au Moyen-Orient et autres.
Enfin, il y a pas si longtemps. Enfin, souvenez-vous que il y a pas si longtemps, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, préparait l'opinion à des coupures d'électricité pendant l'hiver. On en était là quand même.
Oui, parce qu'on avait des réacteurs qui ne fonctionnaient plus. Maintenant, ils sont repartis.
On en était à essayer d'acclimater les gens à l'idée qu'il y aurait des pénuries d'électricité pendant l'hiver. Il faut quand même le faire. Donc, l'électrification totale, on en est quand même encore loin. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique et un peu moins idéologue que ça. Et simplement, il faut faire un effort et arrêter de dépenser de l'argent public pour tout et n'importe quoi. La semaine dernière, dans l'émission, on a évoqué, par exemple, cette formation où les gens vont faire une espèce de tour dans la forêt avec des elfes et des fées. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est une formation qui est payée par nos impôts.
Oui.
Bon, bah. Non, mais on peut quand même faire un petit audit de ces dépenses publiques.
Mais c'est comme les
je pense qu'on trouvera des économies.
Les protections menstruelles qui vont être prises en charge par la Sécu, ok, pour les gens qui sont en précarité, qui n'ont pas des moyens, je trouve ça vraiment une très bonne idée. Mais le pire, c'est le critère. c'est-à-dire moins 26 ans sans condition de revenu. Oui. T'as moins de 26 ans, tu te fais rembourser à 60% tes protections menstruelles, sans condition de revenu. Mais par contre, qu'on les rembourse à des gens qui n'ont pas de revenus ou très peu de revenus, je trouve ça normal. Mais que du coup, là, pour le coup, on les rembourse à des gens de moins de 26 ans et qui ont des revenus,
qui ont beaucoup de revenus,
du genre
hein.
Tes parents, ils te filent 500 balles d'argent de poche par semaine et la Sécu te rembourse 60% de...
Qui a 500 euros d'argent de poche par semaine?
On s'en fiche, il y a des gens qui ont les moyens. Il y a des gens qui ont les moyens.
Il y a beaucoup d'étudiants qui ont les moyens.
Tout n'est pas... Non mais tout n'est pas égalité. La protection sociale, elle doit servir... Là où il faut. Elle doit être fléchée pour que justement, ceux qui ont le moins ont réellement, sont réellement aidés. Même voire beaucoup plus. Mais donc là, sur le carburant, on trie les aides en fonction des revenus. Et on veut pas justement baisser les taxes pour que l'ensemble des Français puissent y bénéficier parce que là, c'est une question de création de richesse, de travail, etc. Et de l'autre côté, on finance des protections mais menstruelles pour à des gens sans condition de revenu parce qu'ils ont moins de 26 ans.
La question du carburant.
C'est ça l'État français, la dinguerie de l'État français.
Est-ce qu'il est pas un peu lent, Sébastien Lecornu, à dégainer les aides ciblées? Parce que par exemple, on parlait d'aides pour les infirmières libérales, on les attend toujours. Là, c'est pour le transport routier, qui est le premier impacté.
Il a joué la montre.
On a l'impression quand même que chaque semaine, il joue la montre.
Il pense que finalement, ça va tout seul.
Il pense qu'il va aller pour parler. Alors, il y a eu un espoir la semaine dernière. Là, de nouveau, l'espoir est un peu douché parce qu'il y a de nouveau de la tension avec Trois d'Ormuz. Mais enfin, on sait bien qu'avec Trump, ça peut changer chaque jour, hein, que demain, finalement, de nouveau, les pourparlers soient là, possible. Mais est-ce que c'est la méthode Lecornu? Est-elle la bonne? Moi, c'est ça que je voudrais vous poser comme question. Est-ce qu'il a raison d'être prudent, de jouer la
c'est
montre?
La
alors, jusqu'à présent, c'est grâce à ça qu'il est resté à Matignon. Hein. Il a été malin, il a bien négocié avec Olivier Faure pour pas être censuré. Est-ce que, voilà, cette politique un peu de la prudence un peu notable, un peu 4ème République...
Ouais. Moi, je vais vous surprendre, mais je...
T'aimes bien, toi, Flora?
Moi, j'aime bien Lecornu. Je trouve que je misais pas un centime sur sa longévité à Matignon.
Ah bah voilà.
Et comme il m'a surprise, je trouve que c'est la bonne méthode et que effectivement il a un fonctionnement un peu 4ème République, mais ça marche. Et c'est comme, enfin, je trouve que au moins il y a de l'humilité et il avance pas à pas dans un pays qui est ingouvernable. Le sujet c'est pas Lecornu, le sujet c'est il y a pas de majorité, le pays est ingouvernable. Donc lui il compose.
Enfin, sa longévité, il la doit quand même aux alliances qu'il a fait avec Olivier
Faure,
à la bonne place. Avec la gauche.
C'est ce que tu dis, la bonne personne, la bonne place.
Je trouve qu'il remplit bien son rôle, qui est pas facile.
Guillaume est avec nous au 32-16. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, cette nouvelle aide pour les transporteurs routiers, pour les professionnels, est-elle suffisante? Faudrait élargir ou non les aides, selon vous?
On veut plus d'aide, il faut arrêter.
Stop. Bon, aide.
Vos aides, stop. Aujourd'hui, moi, je travaille entre 70 et 80 heures par semaine. J'ai du mal à finir le mois.
70%
de ce que je fais, j'ai une entreprise de nettoyage. J'ai deux employés. On s'est eu au téléphone pour la transition, pour jeudi dernier. Je disais à Flora, aujourd'hui, moi, je veux bien passer en électrique, mais mes employés, pour la plupart, ils sont en HLM. Ben, ils peuvent pas se brancher. Oui.
Mais quand vous dites plus d'aide, on continue de payer aussi cher notre carburant?
Non. Ça fait très longtemps que la solution, elle pouvait être posée. Il suffisait juste de bloquer les taxes à 1 euro le litre. Et on serait à moins de 2 euros aujourd'hui.
Ouais, mais si et vous bloquez les taxes, vous financez comment?
Non, mais le gouvernement gagnait autant d'argent parce que quand il a fait son budget, on était à moins
de 1 euro le litre. Ça, je suis d'accord avec vous.
Ah, mais oui. Il suffisait juste de bloquer les taxes. Le gouvernement perdait pas d'argent et nous on continue à payer moins cher. C'est juste aujourd'hui, c'est incompréhensible que la France soit pas dans la rue. C'est incompréhensible que ça ne hurle pas plus que ça. On nous ruine jour après jour.
Oui, c'est vrai, c'est assez étonnant. Il n'y a pas de manifestation. Il y a eu au début, vous vous souvenez, il y a eu quelques blocus.
Jusqu'ici tout va bien.
Des transporteurs routiers ici ou là, mais c'est vrai que c'est calme.
Mais c'est dangereux, parce que justement cette politique du pansement, du tout mou, de la dilettante, on attend, on dit pas tout de suite, ah vite ça s'énerve, on fait un chèque, etc. Ça va pas durer 1000 ans en fait. Ça va
mais
pas durer 1000 ans.
Tout marche par l'échec.
Mais Guillaume, ça va pas marcher 1000 ans cette histoire.
Mais je rêve de pouvoir payer mes employés plus que le SMIC. Si jamais je le fais, je ne peux plus, je ne suis plus rentable.
Ah bon?
Ben oui, les charges.
C'est impossible.
Parce que les vous êtes exonéré de charges.
Ben bien sûr. J'ai des charges qui sont plus basses si je les paye au SMIC. Si jamais je les monte un petit peu,
ça c'est la belle idée, ça. Ça c'est la très belle idée, ça.
qu'on arrête de les aider, qu'on me permette de les payer plus cher.
Mais oui, c'est la très belle idée.
Que tout le monde se lève le matin en disant, je vais aller gagner ma vie.
On a dit aux employeurs, clairement, si vous payez vos salariés au SMIC, les charges seront moindres. Vous vous rendez compte comment on a plombé le pouvoir d'achat? Et mais ils ont des idées absolument géniales. J'hallucine parce que tout est comme ça. Et c'est vrai que moi, ce qui me surprend, c'est la passivité des Français. C'est-à-dire que ça met 200.
De quoi? Que les Français redescendent dans la rue, bloquent les ronds-points.
Mais c'est pas. Non, il y a une autre.
Ça réglera,
non,
si mais ça
non, j'ai pas dit que je suis pas une partisane du bazar dans le pays, mais quand même, je pense que c'est pour ça que 2027 est totalement incertain. Ça dépendra de la capacité des Français.
Que si la crise énergétique se poursuit jusqu'à l'hiver prochain, ça va rentrer dans la campagne.
Mais là, c'est...
Ah bah c'est ce qu'a dit Michel-Edouard
Leclerc. Aujourd'hui, il faudrait juste avoir des hommes politiques qui ont vraiment du courage. Il n'y en a plus un seul. Tout à l'heure, vous aviez un sujet en expliquant si Varnella était... En fait, c'est homme qu'un homme politique, ce soit un métier, c'est plus possible. À partir du moment où c'est un métier, ils vont travailler pour eux et plus pour la France.
C'est ça.
Et plus pour les Français.
C'est un engagement d'abord.
C'est impossible.
C'est ce que les gens n'ont pas compris.
Métier, c'est impossible. Flora, c'est pas possible que ça continue comme ça parce que vous avez.
Mais moi je vous dis pas que c'est souhaitable. Non. Je vous dis que c'est la réalité des faits.
Oui, mais je vous dis
que c'est bien. C'est le problème. C'est le problème justement.
Oui, mais comment on fait parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas un professionnel de la politique, comme l'a dit Zora, un apparatchik, un professionnel des partis, vous avez aucune chance en politique.
Ils ont tout verrouillé. En fait, ils ont tout verrouillé.
Tout remettre sur la table.
Tout est verrouillé. Et plus ils sont en crise et plus ils sont menacés, plus ils verrouillent leur petit pouvoir. C'est tout le principe.
Tant qu'on les laissera faire.
Ça s'appelle l'effondrement d'un système.
Tant qu'on les laissera faire, nous, ils continueront.
C'est ça. Bah oui, vous avez la clé. La clé, c'est nous.
Exactement.
La clé, c'est les Français.
Mais aujourd'hui, il va falloir que tout le monde se réveille. Tout le monde hurle. C'est plus possible de continuer à se faire avoir comme ça.
Merci Guillaume, merci d'avoir appelé une nouvelle fois au 32-16. On continue d'en débattre avec cette mauvaise nouvelle parce que les cours du pétrole repartent à la hausse. Michel-Edouard Leclerc lui-même dit cette crise n'est pas finie, ça va pas baisser de sitôt. Contrairement à ce qu'on pouvait penser la semaine dernière, souvenez-vous, on était dans l'idée que ça allait baisser et que finalement on allait s'en sortir. Eh bien non, ce n'est plus le cas a priori. Donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut étendre les aides? Plus d'aides, nous dit Guillaume. Alors, dans quel camp êtes-vous? Au 32-16, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table ce matin Charles Consigny, l'avocat, la fonctionnaire Zora Bitan et l'entrepreneur dans la transition écologique Flora Gebali. Le carburant, on espérait que ça allait baisser. Malheureusement, ce qui s'est passé ce week-end dans le détroit d'Ormuz montre que les cours du pétrole sont repartis à la hausse et que l'inquiétude et le pessimisme règnent, notamment du côté des distributeurs. Ce matin, Leclerc disait que ça allait pas de baisser si tôt et que lui pouvait même craindre une crise énergétique jusqu'à l'hiver prochain. Pour l'instant, le gouvernement s'en tient à sa stratégie de cible très ciblée, pas d'aide généralisée. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Adrien est avec nous au 32-16 et nous appelle de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Adrien, bienvenue dans les Grandes Gueules.
Bonjour Olivier, bonjour les Grandes Gueules.
Bonjour
Alors,
Adrien.
Alors cette nouvelle aide donc qui vient d'être versée aux professionnels, enfin qui va être versée, elle a été annoncée hier, va être versée aux professionnels des transports routiers. Il y a eu d'autres aides pour les marins pêcheurs, les agriculteurs. On a raison de faire ça?
Alors oui, bien sûr, faut aider, mais comment aider, c'est pas forcément la bonne stratégie à mon avis.
C'est-à-dire?
Alors moi, je pense que les aides aux entreprises, c'est bien, mais pour aider vraiment tout le monde, il faudrait déjà baisser les taxes. Moi, je comprends pas aujourd'hui pourquoi la TVA sur le carburant, elle est élevée à 20% et pas à 5,5%, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, dans mon cas, je suis commercial, je suis en alternance. Je pense que les alternants, déjà, on gagne pas beaucoup. Je pense que vous le savez, vous avez déjà abordé le sujet. Aujourd'hui, on a des taxes qui sont appliquées sur nos salaires. Donc, à partir de 2025, on a des salaires un peu moins élevés. Moi, j'ai de la chance d'avoir ma famille qui m'aide quand même un peu pour pas être endetté à mort. On va dire ça comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui sont endettés, qui sont dans la crise, qui vivent avec rien. Et en plus, avec les prix du carburant, ça, c'est infernal, quoi.
D'accord, mais si vous baissez la TVA, c'est de l'argent moins dans les caisses de l'État, et cet argent, il sert à financer d'autres choses pour les Français.
Oui, mais
aujourd'hui, quand vous entendez les groupes de transport qui vous disent avec la hausse du prix du carburant, on n'est pas rentable. Vaut mieux mettre nos employés au chômage et tout ça. En fait, on participe à un ralentissement économique.
Oui, vous dites que le ralentissement économique coûtera plus cher au final, quoi, en fait.
On est déjà dans un ralentissement économique depuis pas mal de temps. Moi, je peux pas non plus vous dire dans quel état c'était il y a 20 ans. J'étais pas né.
Il a 21 ans, Adrien.
C'était. Moi, quand j'entends mon grand-père parler, qui était ingénieur en électricité, c'était quand même différent. Parce que moi, aujourd'hui, pour avoir un poste de commercial, c'est vachement de piston, c'est vachement de recherche.
Et pourquoi pas passer à l'électrique alors le jour où vous serez commercial?
Mais
avoir un véhicule électrique.
Mais est-ce que ça coûte un bras?
Moi, je suis alternant. Je gagne. Là, actuellement, je gagne 1000 euros par mois. À peu près, 1000 euros.
Oui, c'est pas avec 1000 euros que vous allez pouvoir acheter un véhicule électrique.
Non, mais le paradoxe, Adrien, c'est le suivant.
Mais il y a le leasing social.
Le paradoxe, c'est le suivant, c'est que comme il n'y a pas de vision et pas de cap, ce qui se passe, c'est que on vous explique que si on baisse la taxe sur le carburant, ça va amputer le budget de l'État. Mais en fait, il faut regarder dans la globalité. C'est de se dire que l'urgence, c'est de baisser le prix du carburant pour les Français parce que ça peut pénaliser l'économie, ça peut la ralentir et ça peut encore trouer le porte-monnaie des gens, voire précariser encore davantage de gens. Mais de se dire qu'on regarde la globalité des budgets et où est-ce qu'on peut prendre l'équivalent de la taxe qu'on va baisser parce que c'est moins une priorité pour pouvoir redistribuer. Parce que un budget, c'est un tout. C'est pas que le budget du carburant. C'est pas de dire avec un raccourci édifiant de dire si on baisse les taxes, on appauvrit les Français. Non, c'est de se dire que nous avons besoin aujourd'hui en urgence que les Français payent moins cher leur carburant. Donc nous allons revoir l'ensemble du budget pour prendre ce que nous allons baisser pour le carburant de manière à ce que ça
comprenne.
Au ministère de l'économie de présenter vous savez la politique ce que c'est. C'est un métier. C'est l'art de complexifier tout ce qui est simple pour pouvoir enfumer les gens. Et ça fait des années que ça dure.
Dans
ton budget, on va reprendre un budget personnel. Quand vous avez un budget personnel et que vous avez une dépense imprévue qui est beaucoup plus élevée, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez l'ensemble de votre budget et vous faites des coupes.
Mais là, tu fais des coupes où alors?
C'est à eux de nous le dire. C'est à eux de nous le dire. La priorité, c'est eux qui doivent la décider. C'est le courage. Ça s'appelle du courage.
Mais tu vois, c'est toujours facile de dire on va baisser les taxes.
On les paye pour ça. Ils sont élus pour ça, ils sont nommés pour ça.
Oui, mais après.
Ils sont censés être plus intelligents que nous.
Mais Zora, tu sais très bien que les Français sont quand même assez ambigus. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut payer moins d'impôts.
Tu présentes l'ardoise.
Veut que l'État finance tout.
Tu présentes l'ardoise avec honnêteté. Tu présentes bien l'ardoise et tu vas voir que ça va passer crème. Le problème, c'est qu'on t'enfume et que tu comprends plus rien.
Quand il y a une école qui ferme, on hurle parce qu'il y a une école qui ferme.
Non, il faut présenter les.
Mais
parce qu'on a l'habitude de l'opacité. On a l'habitude de l'opacité des tableaux PowerPoint et des costards cravates qui font des tableaux Excel. Il
n'y
a pas. J'ai travaillé dans les collectivités. Je sais ce que c'est de définir une politique locale. Donc je sais ce que c'est un budget. Quand on vient te voir et qu'on te dit, écoute, cette année, t'auras 5% en moins là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu bosses une semaine sur ton budget et les 5%, tu les trouves ailleurs. C'est tout.
Donc faut arrêter. Je vais rebondir ce que vous venez de dire.
Oui, Adrien.
Ah, ça a coupé.
Non, vous êtes toujours en direct.
Ah, excusez-moi. Ce que je vais rebondir sur ce que vous disiez. Moi, par exemple, les collectivités qu'il y a autour de chez moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de gâchis sur le budget, déjà. On a prouvé par des études que la caisse d'association familiale, d'allocation familiale, excusez-moi, on a quand même pas mal de gâchis. En fait, on gage de l'argent de partout, mais au final, si on cible vraiment les bons endroits, on se retrouve à pouvoir baisser les taxes. Moi, je ne demande pas qu'on baisse les taxes, qu'on revienne à l'essence à 1 euro, mais qu'on puisse quand même avoir une essence à aller 1,75 en tant que...
On a découvert récemment une énorme escroquerie à la Sécu avec des centres médicaux qui surfacturaient et qui facturaient et ça représente des millions d'euros. Voilà, et qui ne seront jamais remboursés.
Merci Adrien, merci d'avoir appelé au 32-16. Le mot de la fin, Jonathan qui est avec nous également, toujours au 32-16 dans l'Hérault à Lunel. Bonjour Jonathan.
Ah oui, bonjour, vous allez bien Grande Gueule?
Bah, bonjour,
toujours.
Jonathan.
Vous êtes artisan. Que pensez-vous de la situation actuelle? Et quand vous entendez Michel-Édouard Leclerc qui dit ça va pas baisser de si tôt.
Ah ben, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on est dans la merde. On est dans la merde. Parce
c'est
que
bien résumé.
Voilà, bah non, mais le bandeau, il y a écrit on va finir par tous mourir.
Parce que je ne sais pas comment on va faire pour continuer à travailler c'est et vrai. À répercuter nos prix sur les clients. Parce que les clients, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous blindés. Et pratiquement tous les clients, ils commencent à petit refuser les devis en disant c'est un peu trop cher, machin et tout. Donc nous, comment on va faire pour travailler? C'est qu'on trouve une solution.
Et oui,
parce que
le calcul.
Eux, qu'est-ce qu'ils vous disent, l'État? Ils vous disent on veut mettre tout le monde à l'électrique. Alors prenez des camions électriques, ça vous coûte 60 ou 80 000 euros. Prenez des camions ben électriques, vous allez voir combien ça va coûter. Prenez des mini-pelles électriques. Alors là, ça n'existe même pas, je crois. C'est des surcoûts énormes. Mais il faut arrêter les conneries. Arrive un moment, moi, c'est mon avis à moi. Arrive un moment, il faudrait que les Français posent un peu leurs couilles, hein, et qu'on fasse une putain de révolution. Et
ah
que,
oui, carrément.
Oui, qu'on arrête tout, qu'on arrête les conneries. Qu'on arrête les conneries. Entre aider un tel, c'est bon, stop, on arrête tout. On baisse, soit l'État, il nous baisse le prix d'essence, ou soit, moi, je propose, on fait tout péter. Voilà, plus personne va travailler. On chope les mecs qui sont à l'État, qui touchent des 12, 13 000 euros par mois ou je sais pas combien, et encore c'est gentil, et on les prend, on les sort de là-dedans. Et vous allez voir que si on met des personnes comme vous, par exemple, autour de ce plateau, qui sont plus intelligentes que ces ânes-là qui sont au pouvoir, ben vous allez voir qu'à mon avis, ça va mieux tourner. Parce que je sais pas moi, arrive un moment, comment on fait? Moi j'aimerais bien qu'ils vous expliquent comment on va faire là. Comment on va faire?
Jonathan. Certains diraient, certains diraient oui, c'est encore du populisme, etc. Mais je crois que le problème, c'est que le gouvernement, en tout cas la classe politique, a pas conscience de manière très précise du réel. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la colère des gens.
Ouais, mais tout pété.
Ouais, mais la colère, ça suffit pas pour faire un programme politique ou pour gouverner.
Un programme politique de quoi? Un programme politique de quoi? Il faut un programme de quoi? Le seul programme qu'ils nous proposent, eux, l'État, c'est de nous surtaxer à chaque fois. Voilà leur seul programme qu'ils proposent. Surtaxer, aider vite fait des petits gens, vite fait, attention, juste par petit simonie. Mais c'est du foutage de gueule, ils se foutent de notre gueule. Quel programme? Ouais, moi, je suis désolé, arrivé à un moment, il faut faire comme les 68, bloquer toutes les routes. Honnêtement, je serais pour ça.
Vous êtes motivé, ouais.
Ah ouais, honnêtement, je vais vous dire honnêtement, la vérité, autour de moi, je trouve 1000 personnes, on pète tout. Terminé. Là, ils se foutent trop de notre gueule. Je m'en fous. On a mini-pelle, on a camion, on a tout ce qu'il faut. Alors,
mais c'est des gens qui travaillent.
Oui,
c'est des gens qui payent leurs impôts. C'est pas des feignants, c'est pas des assistés. C'est la France qui travaille. C'est la France debout. C'est ça qui est dingue.
Allez,
c'est encore pire.
Merci, Jonathan, d'avoir appelé au 32-16. On a bien compris votre colère. Alors, ben, justement, on cherche un président l'année prochaine, puisque celui qui est en place ne peut pas se représenter. Le président idéal, selon un sondage qui a été publié par nos confrères la tribune le dimanche, à 47 ans. Il est honnête et courageux, il manquerait plus que ça. Il est plutôt, on va dire, à droite, centre-droit. Qu'il existe? Et c'est plutôt un responsable politique. C'est-à-dire que les Français préfèrent quand même un responsable politique plutôt qu'un chef d'entreprise ou une personnalité de la société civile. C'est assez intéressant ce sondage. Quel est votre président idéal? Venez nous le dire au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Retour sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, le général Vincent Desportes sera face aux grandes gueules dans 20 minutes maintenant, face à Zora Bitant, Flora Gebali et Charles Consigny, au moment où l'inquiétude est de nouveau de mise dans le détroit d'Ormuz. On tire sur des cargos demain, c'est la fin du cessez-le-feu, enfin dans la nuit de mardi à mercredi. Et on se demande si la guerre n'a pas recommencé finalement avec ce qui s'est passé ce week-end. Les pourparlers pour l'instant, l'espoir s'éloigne. Bref, une guerre sans fin, on appellera avec le général Desportes. D'ici là, on va essayer d'avoir avec vous quel est le président idéal pour les Français. Sondage très intéressant hier publié par la Tribune dimanche sur le président idéal des Français. Il a 47 ans. C'est plutôt un homme, si j'ai bien compris. Un responsable politique plutôt qu'une personnalité de la société civile. Ça, c'est surprenant. On aurait pu imaginer que les Français, un peu dégoûtés par la politique, disent il faut prendre quelqu'un d'autre. Plutôt à droite sur l'échiquier politique, est-ce que ce candidat, ce président idéal existe? Est-ce que c'est le vôtre? Appelez-nous au 32-16, hors habitant. C'est ton idéal également, 47 ans, c'est le bon âge?
C'est surtout l'enquête qu'on a montée dans la tribu de Zora il y a 15 jours et qui s'appelle « Quel président idéal ?»
Alors, est-ce que vous arrivez à la même conclusion?
On est à 1800 réponses et je remercie Elab parce que ça a boosté notre enquête et ça n'arrête pas. Donc ça, c'est génial. Allez-y.
Une enquête. Et est-ce que vous avez le même
en direct, on n'y est pas encore. On va éplucher tout ça d'ici une quinzaine de jours, mais l'enquête est disponible. C'est pas un sondage, c'est pas des coups de téléphone, c'est des Français qui répondent et c'est
génial. Oui, qui ont aucun biais.
Il y a aucun biais. Voilà, c'est une enquête citoyenne.
Alors,
voilà.
alors
Zora, il y a aucun biais. Non.
Zora, quel est ton président idéal?
Je suis dans aucun parti. Je suis ni de droite ni de gauche.
Le débat n'est pas sur la tribu de Zora.
Voilà.
Ton président idéal.
Mon président idéal, je le vois pas aujourd'hui.
Homme ou femme?
Je préférerais une femme.
D'accord.
J'aimerais bien qu'on ait une femme qui ait le sens de l'engagement et de l'intérêt général, qui aime la
Quel
France.
Quel âge?
J'ai pas d'âge. Non. Ça me pose aucun problème.
Jeune là. Pour toi, c'est pas.
Non, ça me pose aucun problème. Qui ait le sens de, qui aime passionnément ce pays, qui le préserve, qui ait du courage,
élu,
qui nomme les
déjà
choses.
Déjà élu, responsable politique,
non, pas forcément.
Un parcours politique.
Non, pas forcément. D'accord. Non, pas forcément. Une quelqu'un qui ait l'engagement chevillé au corps d'abord.
Charles,
alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 46 ans. Donc j'aurai 47 ans en 2027.
Donc c'est Charles en fait.
Donc c'est le portrait qui se dessine, c'est le tien quoi.
Voilà, je suis un responsable politique à ma façon. Bon.
Mais oui.
Et je
tu
suis
coches toutes les cases.
Plutôt centre-droit. Donc quand j'ai lu ce sondage dans la tribune dimanche que
c'est
je lis
génial,
naturellement cherche. Chaque dimanche
il est là.
Avec mon cappuccino, je me suis dit tiens, c'est incroyable, c'est
on
moi.
On parle de moi.
Voilà, c'est... Donc, que vous dire? Zora dit, je ne le trouve pas, etc.
Il est là!
Je suis juste à côté.
Il est devant tes yeux, Zora.
Oui, bah écoutez.
Non,
est-ce que je pourrais être une ministre de ton.
Ah, bah c'est vrai, comment ça se fait pas?
Ah, tu prends pas d'argent?
Ah, non, c'est pas ça, mais. Moi, je ne fais pas.
T'imagines la France gouvernée par les GG?
Je ne fais pas de clientélisme. Je ne fais pas de
clientélisme. Ça avancerait bien.
En fait, je vais te répondre en deux temps. Un, je trouve qu'on focalise trop sur la personne du président. Mmh. Je pense qu'il faut changer nos règles pour que les règles entières, la vie politique française ne tourne pas intégralement.
L'année prochaine, on va pas changer les
règles. Autour de la figure du président de la République. Et deuxièmement, je pense qu'on a surtout besoin de quelqu'un de courageux qui osera faire ce qu'il faut faire pour la France aujourd'hui. Or, pour l'instant, on a beaucoup de gens qui avancent à coups de godille et qui vont dans un sens, dans un autre, etc., pour plaire à telle ou telle partie des Français. Donc, je crois pas trop à ce sondage qui dessine plutôt la figure du gendre idéal, en quelque sorte.
Oui, bien sûr.
Mais bon, le gendre idéal, ça marche bien en politique.
Flora, est-ce que ton président idéal, effectivement, à 47 ans, il est honnête, courageux, plutôt droite?
J'ai aucun enjeu sur la personne, son âge, etc. Je m'en fiche complètement. En revanche, je trouve très intéressant ce sondage parce que il montre qu'il y a 16% des Français qui veulent qu'il soit au centre, 16% qui veulent qu'il soit à gauche, 17% qui veulent qu'il soit à droite, et seulement 3% qui veulent à l'extrême gauche et 11% qui veulent à l'extrême droite. Tout ça pour dire que le bloc central dans ce sondage est donné gagnant largement.
16% et donc ça gagnant, c'est
non, 80... le bloc central ça fait il y a 50% des Français qui veulent ne pas être très éloignés du centre, donc dans un bloc central. Et aujourd'hui, quand
on met dans le bloc central,
oui, c'est ce que j'allais dire.
Parce que Retailleau, il se met pas dans le bloc central, par exemple.
Bah, Retailleau, il a qu'à choisir son camp. Soit il fait comme Ciotti, soit il.
Bah non, ni l'un ni l'autre.
Non mais. Ni l'un ni l'autre, il va être tout seul.
Mais là, Florent,
parce
pas,
qu'aujourd'hui, il y a des équilibres politiques
central,
à l'Assemblée nationale.
Il est là, le bloc central.
Oui, il est au gouvernement, donc finalement.
Il y a un sondage qui dit que les Français veulent ce qu'ils sont en train de rejeter aujourd'hui.
J'y crois pas.
Ah, moi, j'y crois pas deux secondes.
Bah, c'est pourtant ce que dit le sondage.
Non, mais le sondage, il fait dire ce qu'il veut. On sait très bien que les sondages, que c'est.
Bah, non, moi, je trouve que ce sondage.
Bon, ben, Macron, il peut se représenter alors, c'est bon.
Et bah Macron il peut pas se représenter parce qu'il est interdit par la Constitution. Il n'empêche que les Français veulent un truc plutôt centriste. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'incarnation politique, ce qui émerge le plus aujourd'hui, c'est par exemple Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que le Rassemblement National a un candidat, une incarnation, ils sont déjà sur la ligne de départ. Donc en fait, ce que montre ce sondage, c'est que le gros problème, c'est que ni la gauche ni le centre, ni la droite modérée n'est capable de faire une proposition claire avec des idées et
et un programme. Hervé est avec nous au 32-16. Bonjour Hervé.
Bonjour, bonjour.
Alors le président idéal pour vous, Hervé, chef d'entreprise.
Bonjour Hervé.
Alors, j'allais rire en disant il est en vacances cette semaine. Vous auriez fait les GG, vous ferez un bon gouvernement, je pense. En plus, vous êtes capable de vous parler, de vous écouter, même si vous n'êtes pas d'accord.
Ça, c'est vrai.
alors, je vais prendre...
Moi, je prends le ministère de la Transition écologique.
Ouais, mais c'est ça. Mais
moi, je supprime ce ministère.
Bah voilà, mais on va se parler, on va s'entendre, bah, tu vas
c'est
voir.
C'est mal barré, votre histoire.
Il faut un deal.
Attendez, écoutez, Hervé.
Je prendrai le problème à l'envers. Je pense que... aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de un ou une personne qui vient avec une équipe. Moi, je pense que l'idée d'une personne, aujourd'hui, voter pour une personne, moi, j'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais partie des déçus du macronisme. On nous a vendu des choses derrière qu'on produit pas, et surtout, on a une situation qui mérite qu'il y ait une équipe de gens compétents et d'experts qui représentent les gens et qui vont mettre en place un système. C'est comme si vous reprenez une entreprise qui est en difficulté. Moi, je pense qu'il faudrait un plan sur deux quinquennats, parce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, le quinquennat est une problématique, puisqu'on ne pense qu'aux élections, qu'à être élu. Je pense qu'il faut un plan sur deux quinquennats, un peu comme aux États-Unis, arriver avec déjà peut-être un Premier ministre, avec une équipe autour, en disant voilà... Les quatre ou cinq sujets prioritaires pour le pays, ce sont ceux-là. La politique énergétique, la politique de l'emploi, l'économie, etc., etc. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir des résultats, mais que dans cinq ans, il y a des décisions qu'on doit prendre à court terme qui vont être difficiles. Et il faut que les gens, ils soient prêts à entendre que pendant cinq ans, ça va être dur. Voilà, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir réformer, qu'il va falloir prendre des décisions. Peut-être que sur les sujets principaux, au lieu de faire les 100 jours et signer des décrets, on met 3 ou 4 sujets en référendum en disant « Vous voulez la retraite à 62 ans ? Pas de problème. Les Français ont décidé. Par contre, ça veut dire ça, ça, ça. Ça veut dire travailler un peu plus, ça veut dire moins de prise en charge pour certains éléments, etc. etc. » On met les Français devant leurs responsabilités. Et à partir du moment où c'est voté, ensuite, on a un plan. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on n'a plus de chef de guerre. On est soi-disant en guerre depuis le Covid, mais on n'a plus de chef de guerre. On a des tacticiens, on a des gens qui font de la petite politique. Il y a une actualité, on fait une loi. Il y a une actualité, on fait une loi. On fait une proposition le lundi, le mardi, les syndicats, ils affichent le drapeau rouge. Le mercredi, on abandonne. On n'avance plus.
Mais ça, oui, mais voyez, Hervé, pardon, mais vous avez dit vous-même que vous êtes un macroniste déçu. Ce que vous me racontez, c'est ce que Emmanuel Macron avait un peu promis en 2017.
Oui, ça, le nouveau monde.
Absolument.
Bon, voilà, on a vu ce que ça a donné. Visiblement, vous n'en êtes pas satisfait.
Non, mais absolument pas. Mais par contre, aujourd'hui, je pense qu'il faut une équipe. Moi, quand j'écoute le discours de Monsieur de Montebourg, quand j'entends Monsieur de Villiers, quand j'entends Jean-Louis Borloo, qui sont des gens qui, politiquement, ne sont pas forcément du même bord, ils ont de vraies solutions. Je pense qu'il faut des gens qui ont de l'expérience et qu'on attaque les sujets véritablement et qu'on arrête de faire de la petite politique à la semaine, où à un moment donné, on a dit l'inverse du sujet qu'on a présenté la fois d'avant et que parce qu'il y en a trois qui sont
une sorte d'équipe de France.
Mais vous savez, Hervé,
avec les meilleurs.
Ce qui a manqué à Emmanuel Macron, c'est qu'il est parti en se disant je vais changer, je vais être le nouveau monde, sauf qu'il a bâti ce nouveau monde avec des gens de l'ancien monde, puisque c'est à la base c'est beaucoup de gens du PS qui l'ont porté, et moi j'étais à la mutualité en juillet 2016 au premier meeting de Macron, et quand je suis montée dans les salons hier, j'ai vu une grande partie de mes camarades du PS. Rappelez-vous, le Parti Socialiste a constitué le premier contingent, et qu'est-ce qui lui est arrivé à Emmanuel Macron? C'est qu'il s'est frappé au réel, c'est-à-dire qu'il s'est frappé aux appareils, il a manqué de courage. Il aurait dû dire, je suis devenu président, merci les gars d'avoir été là, mais moi j'ai une feuille de route. On m'a élu justement pour rompre avec un certain nombre de tactiques.
Il avait la possibilité au début, avait une majorité absolue.
Il l'a pas fait, et il l'a pas fait, et il l'a pas fait.
On traînait
les
gilets jaunes, mais avant...
Deuxième quinquennat.
Et il l'a pas fait, et à son deuxième quinquennat, ça a été encore pire. Donc voilà, et aujourd'hui on nous sort un sondage en disant qu'on veut le même. En nouvelle tête.
Oui,
on se fout de notre gueule un peu, quoi.
Sondages, c'est pas faux.
Vous savez, les sondages, voyez, les gens, ils veulent tous des prisons en France. C'est pas, dès que vous en construisez une à 10 km de chez vous, la voulez plus. Donc, on peut très bien, les Français, le problème, il est là. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Les gens, ils sont pas stupides. Pourquoi aujourd'hui ils sont pas dans la rue à 2 euros? Parce qu'on voit très bien que c'est compliqué, qu'on peut pas le financer, qu'on n'a pas trop le choix. Mais par contre, si à un moment donné, on dit voilà, il va falloir faire des efforts pendant tant de temps. Voilà où on veut vous amener et voilà les résultats. Et pendant 5 ans, tout le monde s'y met et on avance.
Une vision, Hervé, une vision.
Exactement. Une feuille de route. Vous avez raison, Hervé.
Et une stratégie. Parce que,
bon,
parce
on
que
avec
le sujet, on va en parler parce qu'on reçoit un général pour parler de stratégie. Tout le sujet aujourd'hui, c'est quel chèque on va faire demain matin à la prochaine contestation sociale ou à la prochaine hausse liée à une crise sur laquelle nous n'avons pas la main. Et ça, c'est un gros problème.
Pardon, mais on ergote là, on ergote, on tourne en rond sur des trucs qui, excusez-moi, sont complètement secondaires. La question, c'est que va faire le pouvoir politique dans les 5 ans qui vont suivre 2027. C'est ça la question, c'est pas quel profil, est-ce qu'il est politique, pas politique.
Bah, merci de nous paraphraser en disant qu'on est débiles.
Non, mais c'est pas ça, c'est mais si non, vous ergotez.
Vous ergotez, laissez Charles parler.
En plus, vous êtes incapable d'écouter les gens parler, vous ne cessez d'interrompre et ça fait une espèce de enfin, je sais pas comment vous dire, c'était très désagréable. Je pense, moi, que on est comme toujours avant la présidentielle à imaginer je ne sais quoi, etc. On va rentrer dans le dur quand les uns et les autres vont proposer un chantier, des chantiers pour la France, des modèles de société pour la France. Et je pense d'ailleurs qu'à ce moment-là, on sortira peut-être enfin de toutes ces conneries de on va mettre ensemble des gens qui ne s'entendent pas mais qui peuvent se parler, qui ne sont pas d'accord mais qui se respectent, nanana. Tout ça, je pense que c'est complètement bidon par rapport aux enjeux qui attendent la France, qui l'attendraient dès maintenant si on était en capacité de faire des choses, mais qui vont l'attendre à partir de 2027.
Ça veut dire que la campagne présidentielle peut pas simplement reposer sur la question qui face à Bardella au deuxième tour. Parce que j'ai l'impression qu'on en est. Pour l'instant, c'est ça. C'est la vraie question. C'est qui peut battre Bardella au deuxième tour.
Là où tu as raison, c'est que certains. Notamment dans ce putain de bloc central, pardonnez-moi l'expression, veulent absolument polariser les choses sur qui face à Bardella.
Oui.
À titre personnel, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut proposer aux Français une voie, un chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les 10 mesures qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait sur les dépenses de santé? Qu'est-ce qu'on fait sur l'école? Qu'est-ce qu'on fait sur le temps de travail? Qu'est-ce qu'on fait sur le nombre de fonctionnaires? Qu'est-ce qu'on fait sur l'armée? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, et à partir de ça, les gens vont décider. Peu importe, Bardella, pas Bardella. Moi, je trouve que c'est une mauvaise manière de voir les choses. Qu'en plus, le candidat qui se polariserait trop comme ça, à mon sens, il court le risque de ne pas adhérer suffisamment, de ne pas susciter suffisamment d'adhésion.
Manu est avec nous. On remercie Hervé. Manu qui aura le mot de la fin. Il lui reste une minute à Manu. Bonjour Manu.
Bonjour Manu.
Bonjour les amis.
Ça va. Bonjour, Manu. Manu de Corse, bien sûr. Porto Vec.
Oh là, la merveille.
Moi, je voulais dire bravo à Zora pour Madame Binet. Elle a fait une très belle intervention, j'ai adoré.
Bon, alors Manu, t'as une minute pour nous dire ce que tu penses du président idéal.
On fait de la tambouille bidon, là. On fait de l'eau tiède, comme on en a fait avec Macron depuis le début. On en est à ce stade-là. On montre Bardella comme le loup, mais moi, je suis désolé, c'est pas le loup. Pour moi, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un personnage politique qui va incarner la France, qui va incarner une identité, qui va incarner du souverainisme. Je suis désolé, aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises en France, c'est l'Europe qui les dicte. On est au bout du wagon, on est les derniers, on est à la rue, et on va attendre quoi? On va attendre quelqu'un de tiède. Je veux dire, non, il nous faut quelqu'un de fort, il faut réformer ce pays profondément, donc j'en ai rien à foutre que ce soit une femme ou un homme, ça m'intéresse pas. C'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui amène ce pays vers des solutions. Il faut réformer. Comme il disait, retraite à 60 ans, eh bien, on bosse moins. Mais il va falloir avoir le courage d'y aller. Et là, le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on veut continuer à faire de l'eau tiède. Et même sur le discours que vous avez là eu aujourd'hui sur le plateau, ce que j'ai entendu, c'est des discours avec l'ancien monde.
Vous avez raison.
Manu, merci. Il ne veut pas de discours tiède. Merci Manu. Allez, à tout de suite dans les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.